Je me suis dit que c'était bien, que les choses changent un peu.
Anything is possible with hard work.
You become what you believe.
Quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, c'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Cécile Reynaud, la fondatrice de Séraphine, la marque de mode à destination des femmes enceintes, devenue mondiale. Elle a habillé les plus grandes stars de la planète. J'en cite quelques-unes, Kate Middleton, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Alberi. Cécile a su rendre la femme enceinte sexy et glamour grâce à sa marque. Elle vient de vendre son entreprise fin 2020 et c'est pourquoi j'avais envie qu'elle revienne sur ses 18 années de vie entrepreneuriale totalement folle. Vous allez le découvrir. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci d'être dans Power Girl. Alors, je disais, c'est 18 années folles, pleines de succès, de rencontres, de prix. Je dois le dire, tu as notamment reçu, tu vis à Londres, reçu le Queen's Award for International Enterprise des mains de la reine Elisabeth II à Buckingham Palace. Ceci deux fois. Quel regard aujourd'hui tu portes sur ces années, ces 18 années, tu viens de céder ton entreprise. Quel regard as-tu aujourd'hui sur toutes ces années?
Alors, j'ai un regard qui, en fait, coïncide avec mon expérience de mère. C'est un peu comme voir son enfant partir à l'université. On l'a vu grandir, on l'a vu être un bébé, nous demander à toutes les heures du jour et de la nuit qu'on s'occupe de lui. Puis il grandit, il prend son envol, on délègue, on l'amène à l'école et il prend des libertés par rapport à nous, le fondateur ou la maman. Et aujourd'hui, c'est le moment où vraiment il prend son envol et on lui dit adieu de mon côté. Et je fais cette analogie parce que j'ai un fils qui a 17 ans, donc qui s'approche d'avoir 18 ans, qui a aussi grandi avec cette expérience de Séraphine. Et j'ai toujours trouvé l'analogie maternelle, surtout quand on est une femme entrepreneuse, faire beaucoup de sens. Donc, je regarde ça avec fierté, avec un peu d'émotion parce que c'est un grand départ.
Alors, justement, Cécile, est-ce que ça a été facile de prendre cette décision quand même? Après toutes ces années passées, tu vas nous raconter l'histoire de Séraphine qui est passionnante, qui est faite de rebondissements. Mais est-ce que c'est facile de prendre ces décisions? Est-ce que, tu le disais, hein, c'est un bébé, donc c'est dur.
De mon point de vue, j'étais préparée. Je savais qu'à un moment, en tant qu'entrepreneuse, j'arrivais au bout de cette aventure, que j'aurais besoin d'aller me ressourcer ailleurs, de retrouver une créativité et peut-être, je ne sais pas si je vais recommencer un business, mais participer à d'autres startups. Parce que l'esprit entrepreneur d'une startup, et quand on arrive à un business de ma taille, donc qui faisait presque 40 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des centaines de personnes, c'est très différent. Et je sentais que c'était plus moi et que moi, je préférais être dans une structure plus petite et quelque part plus agile, même si Séraphine reste encore une structure avec beaucoup d'agilité et finalement assez jeune. Mais donc, c'était une décision que j'avais mûrie depuis plusieurs années. Et j'avais commencé, en fait, en vendant une partie de Séraphine à une société de private equity. En français, on dit venture capital ou private equity. Et ça, c'était une première amorce de me distancier du business, de prendre un nouveau regard, de laisser rentrer des gens qui allaient influencer aussi la stratégie du business autre que moi. Et je dois dire que ça s'est très bien passé. J'ai une très bonne expérience avec cette transition progressive. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi fait rentrer un homme qui a pris la tête de Séraphine. Donc, au départ, il est devenu mon bras droit. Et sur les 3 années qui ont suivi, progressivement, je l'ai de plus en plus délégué. Et j'ai trouvé qu'il était tout à fait à la hauteur du challenge de reprendre la société. Lui était très motivé et donc ça s'est très bien passé. Et donc, quand j'ai revendu là à une nouvelle société de private equity, mentalement, j'avais été préparée. Cette transition, je l'avais travaillée et j'y étais prête. Et donc, elle s'est passée, je vais dire, tout en douceur. Même si cette dernière année a été chamboulée par le Covid, qui, on le vit différemment, mais c'est des stress et des chamboulements. Donc, ça, c'était la partie inattendue de ce dernier voyage avec ma société.
Alors, justement, avant de rentrer encore une fois dans les détails, mais pourquoi à un moment donné, une entrepreneure comme toi, qui a été au départ d'une très belle aventure, décide de prendre un peu de recul, de prendre un CEO? Ça arrive souvent, mais pourquoi on prend cette décision? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, il faut que j'ai quelqu'un qui soit différent de moi? Pourquoi on prend cette décision?
Oui, je pense que c'est tout à fait l'idée de trouver quelqu'un de complémentaire et quelqu'un qui est bon à commencer ex nihilo une entreprise n'est pas forcément bon dans la phase où il faut devenir très systématique, où il faut être plus corporate, où forcément lorsqu'on fait rentrer des investisseurs institutionnels, ils s'attendent aussi à un niveau de reporting, de planification stratégique qui est différente de celle de la start-up. Ce ne sont pas les mêmes qualités. Et j'avais vraiment envie de faire entrer quelqu'un qui avait l'expérience de cette accélération de croissance. Et donc, en l'occurrence, David, lui, venait de ASOS, donc une société qui est partie de rien et qui, bon, aujourd'hui est absolument gigantesque. Mais lui, il avait fait cette trajectoire de la société autour de 50 millions qui pivotait sur 100 millions. Et je me suis dit que voilà, j'avais besoin de quelqu'un comme ça, que moi, je ne me sentais pas les épaules de le faire, ni l'envie. Et aussi, je préparais mon exit et ma capacité de sortir de Séraphine pour pouvoir aller me ressourcer ailleurs. Parce que c'est vrai que 18 ans de driver un business, ça demande beaucoup, c'est fatigant. Et au bout d'un moment, on a envie d'aller voir d'autres choses.
Alors, Séraphine, ça a commencé, au départ, tu vas nous raconter, mais au départ, tu avais une carrière bien établie dans la pub, tu es passé par de très grandes boîtes de communication, de publicité. Qu'est-ce qui t'a donné envie un jour de monter ta boîte? Comment est née cette idée-là?
Alors, j'ai bénéficié dans le début des années 2000 d'un boom des entrepreneurs en Angleterre et qui était très médiatisé. Et c'est vrai que ça donnait envie. On sentait cette énergie créative. Et un peu, quelques années auparavant, j'avais eu la chance de rencontrer Anita Roddick, qui était une grande entrepreneuse anglaise qui a créé la marque Body Shop. Et je crois que la rencontre avec Anita m'avait marquée. Une femme qui avait eu une idée et qui était partie un peu bille en tête, qui avait créé une boîte incroyable, internationale. Et cette rencontre donc était restée et m'avait donné envie, une certaine émulation. Donc, ce sont toutes ces forces qui venaient. Et puis, un esprit probablement assez individuel où l'idée de faire ma propre entreprise m'attirait.
Au départ, tu savais pas totalement ce que tu veux, enfin où tu voulais aller. Je crois que tu as hésité à lancer ta boîte côté culinaire parce que t'aimes bien cuisiner, je crois. C'était vraiment l'idée d'être entrepreneur, mais tu savais pas vraiment encore où tu voulais aller.
Ouais, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment cette graine d'entrepreneuriat et on ne savait pas où est-ce qu'elle allait germer. Donc forcément, on se tourne vers ses passions. Effectivement, la cuisine, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'avais regardé dans des business de nourriture à emporter, différents business models. Mais finalement, là-dessus, je m'étais relativement fait décourager par un nombre de personnes qui m'avaient dit « ce sont des secteurs très difficiles, tu n'as pas d'expérience ». Donc, j'avais un petit peu mis ça en pause. Et puis, je suis arrivée à un moment de ma vie où beaucoup de mes amies étaient enceintes et collègues de travail. Et là, j'ai vu leur expérience où elles n'arrivaient pas à s'habiller. Donc, qui me parlaient de cette problématique. Et moi-même, qui aimais beaucoup la mode, j'étais très à l'écoute. Et c'est de là qu'est venue cette idée. Là, ce qui a été intéressant, c'est que quand j'ai présenté cette idée à des investisseurs, donc des business angels, des indépendants, Cette fois-ci, ils m'ont endossé et ils ont dit, mais c'est vrai, ça me paraît une excellente idée. Ma femme s'est plaint quand elle avait sa grossesse, elle ne pouvait pas s'habiller, ou ma fille. Ou... Donc, toutes les personnes que j'allais voir, quelque part, ils avaient une relation avec cette expérience de la femme enceinte qui ne sait pas s'habiller. Et donc, leur encouragement positif, c'est ça qui a été le déclencheur. Le fait qu'eux ont cru au projet. Et donc, voilà, j'ai à ce moment-là raffiné mon idée, ma proposition. J'ai été voir le marché aux États-Unis, qui était beaucoup plus développé qu'en Europe. Et ça m'a confortée dans l'idée qu'il y avait un marché, qu'il y avait une demande, qu'il y avait vraiment des opportunités de développer ça. Alors, au départ, c'était l'Angleterre, puisque j'habitais en Angleterre. Et puis, rapidement, j'ai développé le business en France. Et ensuite, avec l'arrivée vraiment de Internet, ça nous a permis d'internationaliser et d'être aujourd'hui distribué dans 40 pays du monde et de vraiment avoir un footprint très international.
Alors, on va rentrer dans les détails de cette internationalisation, mais le textile, c'était quand même un domaine que tu connaissais par ta grand-mère, par tes grands-parents.
Voilà, alors ça, c'est intéressant parce que quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a des influences auxquelles parfois on ne pense pas tout de suite. Et c'est finalement, quand j'ai créé l'entreprise, ça ne m'a pas frappée qu'à la génération de mes grands-parents, mes deux grands-parents travaillaient dans le textile. Ils fabriquaient des tissus et étaient fournisseurs donc de Chanel, de Lanvin, des grandes maisons de couture. Mais c'était une part de l'histoire de ma famille dont on ne parlait pas beaucoup finalement parce que malheureusement, autour des années 70, ils ont fait faillite parce qu'ils ont été rattrapés par les tissus italiens, la compétition chinoise. Et donc, voilà, c'était une partie de l'histoire de ma famille qui restait un petit peu, dont on ne parlait pas trop. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, c'est certain qu'il y avait une fibre familiale et que presque à mon insu, je suis retournée aux sources.
Alors, tu le disais, tu quittes ton job, tu lances ton idée, ça convainc des investisseurs masculins. Hein. Tu ne devais pas avoir beaucoup de femmes à l'époque. Il y en a un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça devait être quand même très masculin. Tu disais dans un portrait que je t'avais consacré en 2013 dans Business au féminin que les femmes doivent savoir prendre des risques et se comporter un peu plus comme des hommes. C'est ça finalement le principal frein en général pour chez les femmes, c'est ne pas oser prendre des risques. C'est ce que tu dis souvent. Toi, tu as voulu, voilà, tu t'es lâchée vraiment. Enfin, tu as pris des risques dès le départ.
Oui, je pense que nous, les femmes, nous avons plus peur du risque et surtout nous avons moins confiance en nous. Et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Il faut lutter contre la petite voix qui est dans chacune de nous et qui nous dit « mais non, tu es sûre, tu ne vas pas être à la hauteur ». On sait aujourd'hui, c'est prouvé par des études sociologiques, qu'une femme, lorsqu'on lui propose une promotion, en général, doute si elle va être capable de remplir les objectifs. Alors qu'un homme, quand on lui propose un job, même dans un domaine qu'il ne connaît pas, il n'a pas du tout de doute sur le fait qu'il va être capable de faire le job. Donc, il faut absolument qu'on lutte collectivement contre ce manque de confiance en soi. Il faut se pousser, il faut se jeter à l'eau et il faut se soutenir. Et moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'avais un autre rôle modèle qui était une entrepreneuse anglaise qui a créé une marque qui s'appelle Sweaty Betty, qui est aussi un gros succès donc dans toute la mode active de sportswear. Et je l'avais rencontrée et elle était en fait 2 ans ou 3 ans en avance de moi. Et en la voyant, je me suis dit, si elle peut le faire, moi aussi. Et donc, je pense que la communauté que tu crées de business au féminin est extraordinaire parce que voilà, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on se pousse et qu'on s'entraîne à être ambitieuse et dominer nos peurs. Parce que de la peur, on en aura, mais il faut être capable de se dire non, je vais dominer cette peur et me pousser.
Donc, quand tu dis ça, ça veut dire que malgré tout, même si tu as eu très vite des investisseurs qui t'ont fait confiance, tu l'avais quand même cette petite voix qui disait « mais oh, je ne vais peut-être pas être capable, je ne vais peut-être pas y arriver ». Tu l'avais et comment tu as réussi à la surmonter justement ?
Ben, je pense que le désir était plus fort que la peur en fait. Donc, et je me suis dit… Je me lance et si ça rate, c'est pas grave, je reviendrai à ma carrière qui était en publicité où j'étais bien établie. Donc, j'avais vraiment ce côté, je me lance et tant pis si après 2 ou 3 ans, ça n'a pas marché, je sais que je pourrais retomber sur mes pieds. Et donc, quelque part, de se donner comme ça à fond, ça je pense, ça m'a libérée de beaucoup de craintes qui auraient pu me tirer vers l'arrière.
Est-ce que le fait d'être à Londres, où tu vis depuis toujours, hein, presque, ça a été assez positif et porteur pour toi ? Est-ce que tu penses que peut-être qu'en France, ça aurait été un peu différent ? La française, parce que tu restes française, même si tu as vécu beaucoup plus longtemps en Angleterre, est-ce que ça a été peut-être porteur pour toi, le fait d'être là ?
Je pense que déjà, bon, donc on parle d'il y a 18 ans, tout ce qui était entrepreneuriat a été plus développé en Angleterre qu'en France. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un système beaucoup plus équilibré où je trouve que je vois qu'en France, il y a énormément d'engouement pour l'entrepreneuriat, pour les femmes entrepreneurs, de soutien, d'appel du gouvernement, de simplification des structures d'entreprise qui ont été beaucoup facilitées. Mais à l'époque à laquelle je l'avais créée, l'entrepreneuriat a été facilité et notamment tout ce qui était investissement de business angel était simple comme on l'a aujourd'hui en France. Mais à cette époque, en France, ce n'était pas le cas. Donc, je suis vraiment contente de voir que pour la nouvelle génération d'entrepreneurs, les choses leur sont facilitées et que les Françaises peuvent avoir autant d'opportunités maintenant de créer leur entreprise.
Alors, je le disais au départ, tu venais de la pub, donc a priori, tu n'avais pas forcément de talent de designer. Comment a commencé la marque Séraphine ? Tu as été donc soutenue par des investisseurs, mais il fallait constituer une équipe. Les débuts de Séraphine, à quoi ça ressemblait ?
Alors, ça ressemblait à une aventure, effectivement, dans laquelle je n'avais pas énormément d'expérience. Donc, je me suis jetée à l'eau. Dans ce qui était le design, j'avais vraiment un intérêt pour la mode. Et donc, je me suis vraiment basée sur mon instinct, mon flair, en me disant qu'est-ce que moi, j'aimerais porter si j'étais enceinte. À ce stade, quand j'ai vraiment lancé l'entreprise, je n'avais pas encore été enceinte. C'était ça qui était intéressant. Mais en fait, dans la première année de lancement de mon entreprise, j'ai attendu mon premier fils. Et donc là, j'ai vraiment créé des vêtements sur moi-même. Et c'était une approche très directe. Qu'est-ce que j'ai envie de porter ? J'essaye. Est-ce que c'est confortable ? Je change. Et finalement, ça a été la recette du succès, créer un produit, puisque je pense que tout succès entrepreneurial, bon, il peut être basé sur un service, mais s'il est basé sur un produit, c'est la qualité du produit qui doit être vraiment unique au départ pour faire un succès. Et donc, grâce à mon expérience de femme enceinte, j'ai vraiment d'emblée fait des produits qui ont été des énormes succès. Donc, des lignes de jeans qui ont été portées par des célébrités très importantes, des lignes de sous-vêtements, des produits au départ qui étaient relativement assez basiques, mais qui vraiment remplissaient le besoin de la femme d'avoir des vêtements fashion et confortables.
Et tout ça, parce que quand tu nous racontes ça, on se dit c'est pas parce que les célébrités, il faut quand même les citer. Les femmes qui t'achètent tes jeans et tout ça, c'est des femmes comme Claudia Schiffer, par exemple. Comment c'est arrivé finalement ? C'est parce que tu étais la seule sur le marché ?
Alors, donc oui, en Angleterre, il y avait très très peu de marques et on était vraiment la seule marque à faire un beau produit. Et puis, j'avais choisi une boutique assez phare, donc dans le quartier de Notting Hill, très en vue, qui était tout à côté d'une école où allaient toutes les célébrités, donc Elle Macpherson, Claudia Schiffer. Donc, ça a été assez facile de les attirer, mais c'est vrai que c'était une démarche très active où je contactais les célébrités pour leur faire savoir qu'on était là. Et ça a eu un succès très important puisqu'elles se sont rapidement mise à adorer la marque, à la plébisciter, c'était avant les social media. Donc, on n'avait pas encore le phénomène Instagram, etc. Mais la presse s'est tout de suite emparée de ça, puisque il y a eu quand même un engouement pour de la presse dans ces années-là, de montrer le corps de la femme enceinte, de faire des superbes photoshoots de femmes enceintes. Et donc, ça nous a permis de développer l'image de marque associée aux célébrités. Et puis, plus récemment, avec bien sûr l'arrivée d'Instagram, etc., ça a été une manière d'exploser notre capacité de communiquer sur toutes les célébrités qui nous portent. Et donc, elles vont de Marion Cotillard, une grande égérie française, à Halle Berry, une actrice américaine, Carolina Kourkova, des super modèles, des chanteuses. Enfin, on couvre, on a habillé Shakira. C'est ça que j'ai essayé de créer avec Séraphine. Et je le dis souvent, c'est que j'aime bien habiller des princesses et des rockstars. Donc, on peut mettre Marion Cotillard dans un legging en cuir pour femme enceinte et habiller Kate Middleton dans un manteau en cachemire très classique.
Alors, je voudrais que tu nous parles quand même, parce que ce qui ressort de tout ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même un talent que tu as pour la communication, pour faire connaître. On sait que tu viens de la pub, donc il y a peut-être un lien entre tout cela. Mais je me souviens, quand j'étais venue dans tes bureaux à l'époque, c'était au moment où Kate Middleton venait de se marier au prince William, et tu m'avais dit, là, je suis en train de préparer une collection un peu plus... haut de gamme, parce que je pense que Kate va être enceinte, et donc je regarde son look, j'ai vu comment elle s'habillait, et j'ai envie de voir si ce que je vais créer va lui plaire, et donc elle va le porter. C'était un énorme pari, en fait.
Oui, tout à fait, mais ça, c'est la vision de l'entrepreneur qui a une idée et qui poursuit son idée jusqu'au bout. Et effectivement, d'un autre côté, il n'y avait pas besoin d'avoir une boule de cristal pour se dire qu'elle allait avoir un enfant.
Mais qu'elle aime tes produits, il y avait peut-être quand même, c'était pas forcément évident.
Je me suis dit, je vais créer toute une gamme que je vais concevoir vraiment en me disant je ne crée que des produits qu'elle va aimer. Donc, j'ai pris une approche très stratégique, j'ai analysé tout ce qu'elle portait pas enceinte et j'en ai distillé des directions de collection et on a créé une collection sur cette base. Donc, c'était... Et effectivement, ça a marché. Alors, j'avais donc cette chance extraordinaire que... On était déjà à ce moment-là développé sur Internet, etc. Mais on avait toujours cette boutique qui a été la première boutique de Séraphine qui était littéralement derrière Kensington Palace. Donc, un de ces hasards.
Où elle vivait.
Total. Elle passait devant la boutique et effectivement, elle s'est arrêtée. Elle a commencé par acheter certains produits. Et ensuite, très rapidement, je me suis dit, il faut que je lui offre plus que cette gamme. Il faut que je lui offre des services de couture, haute couture, où on fait des modèles spéciaux pour elle. Et cette idée lui a plu. Donc, littéralement, on lui a envoyé des lookbooks avec des croquis, des matériaux, comme un principe de haute couture, et elle choisissait ce qu'elle aimait. Et ça a permis... que tout d'un coup, elle sortait en Séraphine à toutes les occasions officielles, on lui offrait un produit exactement comme elle le voulait.
Et, pourquoi je parle de ça et pourquoi je voulais t'emmener vers cela, c'est que, évidemment, ça a été une énorme opportunité pour toi de développer ta marque vraiment à l'international et t'ouvrir le marché américain. Raconte-nous ce qui s'est passé, parce que je me souviens, j'étais pas loin de toi à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Kate a mis cette fameuse robe? Je crois que c'était une robe. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, le premier gros hit vraiment qu'on a eu, c'est donc lors de la première grossesse de Kate, elle avait porté des pièces Séraphine, mais on la voyait peu en public nous portant. Et après la naissance, elle a posé pour la photo officielle, la première photo officielle avec le prince George, dans une robe Séraphine. Et là, ça a été un hit mondial parce que cette photo a été donnée aux médias du monde entier. C'est évidemment le premier prince et héritier, donc il y avait un engouement incroyable. Et le fait qu'elle porte cette robe après la grossesse, ça m'a vraiment permis de dire, vous voyez, comme Kate aime Séraphine, elle continue même à porter les robes après la grossesse. Et c'est vrai que là, cette histoire a absolument fasciné les États-Unis. Et donc, ça a été l'opportunité pour moi d'aller sur les plateaux télé d'émissions nationales américaines vraiment énormes pour raconter l'histoire, pour montrer les collections, parce qu'ils étaient fascinés par l'histoire de cette créatrice française qui habillait la princesse. Et tout ce qui touchait à Kate, c'était une mine d'or pour les médias. Donc, ça a été un tremplin incroyable. Et ensuite, j'ai eu aussi un deuxième coup de chance, surtout pour développer le marché américain. Donc, lors de la deuxième grossesse de Kate, cette fois-ci, elle était enceinte de la princesse Charlotte. Elle est allée faire un voyage officiel à New York. Et là, aucun membre de la famille royale n'avait été faire des voyages officiels depuis Lady Di. Donc, de nouveau, un coup de phare médiatique dingue. Et en fait, quand elle est arrivée sur le sol à JFK, à l'aéroport, elle est sortie de l'avion avec un manteau Séraphine. Donc là, pareil, CNN News, sur toutes les nouvelles américaines, un coup de phare incroyable sur notre marque. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, on était lancés. Ça nous a vraiment, vraiment facilité de lancer la marque aux États-Unis parce que c'est notoirement difficile. Évidemment, c'est un marché énorme, mais les coûts de marketing sont aussi 10 fois plus grands qu'en Europe. Et donc là, on a eu plusieurs millions gratuitement d'investissements médias qui ont parlé de Séraphine.
Comment tu as vécu, toi, personnellement, cette croissance? Parce que tout d'un coup, c'est une explosion des ventes. C'est du, je crois, si mes souvenirs sont bons, du plus de 100% en une journée ou en quelques jours. Enfin, c'est… il faut suivre.
Ah oui, c'est un marathon. Hein. Il faut… ou un triathlon. et c'est vrai que, d'une certaine manière, on est porté par l'excitation de ce succès, etc. Mais il faut deliver derrière. Et d'ailleurs, certaines marques qui ont eu aussi des gros coups de pub avec Kate, comme par exemple la marque qui avait créé sa robe pour ses fiançailles, finalement se sont essoufflées parce qu'elles n'ont pas réussi à garder le momentum nécessaire pour cette hypercroissance. On sait dans les entreprises que parfois l'hypercroissance peut amener des problèmes de cash flow, des problèmes de logistique. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment passer en vitesse 5 et rester pied au plancher pendant plusieurs années sans perdre le contrôle de la voiture. Et ce n'était pas toujours facile, mais ça a été une belle aventure et surtout ça m'a permis… dans ces années d'accélération, de recruter une équipe de qualité. Et aucun entrepreneur, le succès d'un entrepreneur, c'est jamais juste soi, c'est toute l'équipe qui est derrière nous. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens formidables dans cette aventure et des gens très complémentaires de mes propres talents. Et grâce à cet esprit d'équipe, on a pu continuer sans crasher la voiture.
Alors, une équipe, c'est important, évidemment, c'est essentiel dans la réussite d'une boîte. Il y a aussi le fait, parfois, d'être cofondateur, cofondatrice. Toi, tu étais seule. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, ça aurait été bien que j'ai quelqu'un cofondateur à mes côtés, parce que c'est quand même une croissance aussi importante, un développement international aussi fort et très rapidement. C'est, comme tu le dis, pas facile à gérer au quotidien. Ouais.
C'est sûr que d'être fondatrice seule, on a souvent un sentiment de solitude. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Quand on doit prendre des grandes décisions, ce n'est pas facile de ne pas avoir quelqu'un à qui sonder son opinion. Donc, a priori, créer une entreprise à deux ou trois, il y a une énergie qui est plus importante. On peut se reposer aussi de temps en temps sur son cofondateur si on a un coup dur, une difficulté, alors que là, on ne peut jamais s'arrêter, on ne peut jamais mettre de pause. Et il y a eu des inconvénients. Quand j'ai eu mes enfants, impossible de prendre des congés maternité. Parfois, j'ai eu des moments d'épuisement total, mais on ne peut pas s'arrêter. Donc, Bon, après, comme tout, hein, il y a l'envers des choses. C'est que quand on est seul aux commandes, bah, on ne peut pas se disputer. On peut aller très vite parce qu'on prend les décisions, on n'a pas forcément à les argumenter ou à les justifier vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Mais toutefois, je pense que la création d'entreprise à deux ou trois est plus facile et probablement préférable.
Alors, justement, quand on a des décisions difficiles, à qui on s'adresse? Parce que son équipe, oui, mais c'est quand même pas les personnes qui sont totalement partie prenante. Est-ce qu'on a des mentors? Est-ce que tu avais des mentors, des personnes? Parce qu'on le dit souvent, les entrepreneurs, il faut qu'ils soient entourés, ils sont souvent seuls, il faut qu'ils puissent poser des questions à des gens qui ont peut-être une expérience différente, une maturité différente. Est-ce que toi, tu as été aidée, accompagnée par des mentors notamment?
Oui, c'était très, très important pour moi. Et d'ailleurs, j'avais rejoint au moment où, justement de cette croissance du business un groupe d'entrepreneurs similaire à Business au Féminin. Et ça a été pour moi un moment fondateur de pouvoir m'asseoir à une table entourée de 10 autres entrepreneurs qui avaient tous les mêmes galères, tous les mêmes questionnements et ce mélange où on est ambitieux, on est sûr de soi, mais en même temps, on a plein de points où on n'est pas sûr, où on est épuisé, où on est challengé, où on a un sentiment de solitude. Et vraiment, de faire partie de ce groupe d'entrepreneurs, pour moi, ça a été un soutien exceptionnel. Donc, je recommande absolument à tout le monde et je pense que d'ailleurs, je l'ai fait trop tard. Puisque moi, je l'ai fait après les 8 ans de business, parce qu'au début, j'avais des jeunes enfants, j'avais pas tellement le temps. Mais avec le regard, je me dis, j'aurais dû faire ça tout de suite, parce que l'entraide et le partage qu'on peut avoir de vivre les mêmes choses, parce que ce soit un entrepreneur, bon, moi, j'étais dans le fashion, mais dans n'importe quel autre secteur, on se retrouve tous avec les mêmes problématiques. Et donc, de partager, c'est très, très important. Ça donne une force incroyable. Donc, entraidez-vous, partagez, faites partie de groupes d'entrepreneurs. C'est fondamental au succès.
Puis, ça donne des idées aussi. Ça donne, il y a une…
En plus, et puis, c'est des moments où on se pose et justement, où on réfléchit, on fait le point. Et parfois, juste une conversation ou même écouter l'autre parler de ses problèmes… Tout d'un coup, ça va être le déclic de notre solution sur un autre problème. Donc, c'est marrant comme le cerveau, quelquefois, a besoin d'entendre quelqu'un d'autre. Et en fait, dans l'inconscient, il continue à résoudre ses propres problématiques.
Alors, est-ce qu'il y a des secrets d'entrepreneurs aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience, 18 ans, que tu peux nous partager? Est-ce qu'il y a des clés de succès pour toi, pour la réussite d'une entreprise? Alors, toi… Il y a cette stratégie, il y a cette vision très forte, il y a cette chance aussi, hein, parce que tu as eu de la chance aussi, hein, ouais. Que tu as cherché, mais tu ouais. Elle a aussi été au rendez-vous. Mais quelles seraient les clés de succès pour réussir?
Alors, c'est certain que la communication est essentielle. Que quelque produit ou service qu'on fasse, et aussi bien sera-t-il, si les gens n'en entendent pas parler, ils ne seront pas là pour l'acheter. Donc, communiquer est fondamental, utiliser les relations presse, utiliser les social media, utiliser la publicité payante, qui a été aussi un axe très important. Donc, ne pas hésiter à investir massivement dans la communication. C'est un des premiers conseils que je donnerais. Deuxièmement, ne pas négliger ses finances. C'est souvent, chez les créateurs d'entreprises, une faiblesse parce qu'on a tendance à être plutôt des gens un peu plus créatifs, des fonceurs, des gens qui sont dans l'action. Donc, s'épauler de quelqu'un qui est bon en finance et qui va vous aider à planifier, à budgéter pour ne jamais se retrouver dans cette situation où tout d'un coup, on ne fait pas le fond de mois, on ne peut pas payer ses employés, on ne peut pas acheter sa marchandise. Et là, on part dans un cercle vicieux très négatif. Donc, par exemple, moi, une des personnes les plus seniors que je payais plus que moi-même dès le départ, c'était mon directeur financier parce que je savais que ce n'était pas moi ma force. Donc, ça, c'est aussi savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses et très vite complémenter dans les domaines où on a des faiblesses avec des gens de qualité. et ne pas lésiner sur la qualité des gens. C'est peut-être un défaut que moi-même j'ai eu, parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de budget, donc on se dit, je vais prendre quelqu'un de pas trop cher, je vais... Et parfois, finalement, au lieu de recruter la meilleure personne, on recrute la personne moins chère, et en fait, on le regrette, parce qu'il faut toujours penser, une personne va payer son salaire. Une personne compétente, son salaire sera payé par la valeur qu'il va ajouter. Et en fait, quand on grandit et qu'on recrute de plus en plus de personnes et qu'on regarde les budgets, parfois, on a peur. On se dit, oh là là, non, si je me rajoute encore 80 000 de salaire, comment je vais le payer? Et finalement, moi, le jour où vraiment ça a été un déclencheur, c'est de me dire, non, tant que j'ai la confiance que cette personne va payer son salaire, va ramener l'argent équivalent dans l'entreprise, ça va marcher. Donc, et ça en revient à l'équipe, la force de l'équipe, créer un esprit d'entreprise fort et le protéger. Et par ça, je veux dire que parfois, j'ai laissé rentrer des gens dans mon entreprise qui n'avaient pas le bon esprit d'équipe que j'avais construit et qui rapidement étaient capables de le détruire. Et il faut savoir identifier ces personnes et ne pas les garder. Et ça, c'est aussi une décision très difficile de l'entrepreneuriat. De temps en temps, on recrute quelqu'un et ça ne marche pas et on doit le laisser partir parce que sinon, il va vous couler la boîte ou elle. Et donc ça, c'est des décisions très difficiles parce qu'on n'aime pas, évidemment, prendre ces décisions et devoir pousser les gens dehors. Mais protéger sa culture d'entreprise est fondamental.
Tu parlais encore une fois de la communication qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on voit beaucoup de marques qui se sont développées de manière fulgurante sur les réseaux sociaux et notamment pour la mode, la beauté sur Instagram. Quel conseil tu donnerais? Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi des scandales. Il y a des marques qui disent des choses qui ne sont pas finalement vraies. Enfin, il y a tout un storytelling. On parle beaucoup de storytelling aujourd'hui. Quels sont les points clés à avoir dans sa communication? Enfin, déjà, on a envie de dire, on parle beaucoup d'authenticité, mais jusqu'à quel point et qu'est-ce que...
Nous, la grande ligne qu'on a eue, c'est de ne jamais payer nos influenceurs. Donc, oui, elles reçoivent des vêtements gratuits, mais on est très sollicité par des influenceurs qui veulent être payés et on a toujours refusé. Justement pour qu'il y ait cette forme d'authenticité et parce que je ne suis pas convaincue que lorsqu'on paye des fees importants qu'on s'y retrouve sur les social media, parce qu'effectivement il y a aussi des tas de gens qui ont des faux followers, des followers qui sont engagés mais que d'un œil et qui ne vont pas forcément passer à l'action et acheter exactement la même chose que l'influenceuse. Donc il faut quand même se méfier des ressources qu'on met sur Instagram. Mais après, quand on développe une audience qui est vraiment légitime, où il y a de l'authenticité, effectivement, ça marche. Et pour nous, la communauté des femmes enceintes, c'est un moment où la femme, elle recherche beaucoup de conseils. Elle est particulièrement à l'écoute de d'autres femmes enceintes, puisque c'est quand même... un moment de découverte incroyable, challenging, où on vit des émotions très, très fortes. Et donc, pour nous, l'utilisation des social media marche très bien grâce au fait qu'on a une audience très engagée.
Qu'aurais-tu fait différemment?
Oui, il y a toujours beaucoup de choses, mais je pense... que c'est ce que je disais, quelquefois j'ai été trop lente à identifier des personnes dans la société qui n'étaient pas les bonnes personnes et j'ai pris trop de temps pour les faire partir. Et donc je pense qu'il faut vraiment là-dessus suivre son instinct. Je pense que quand une personne rentre dans une entreprise et pas, souvent on voit qu'elle ne s'adapte pas bien, on a trop tendance à dire non, mais on va lui donner un peu de temps, ça va venir. Eh bien, en fait, en tout cas, mon expérience basée sur quand même avoir recruté des centaines de personnes, c'est que ça, le changement se passe très rarement. Donc, si on identifie rapidement que ça ne marche pas, il faut arrêter. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des périodes d'essai les plus longues possibles pour se donner les quelques mois nécessaires pour cerner cette personne. Et si à l'issue de cette période, on a le moindre doute, il ne faut pas persévérer.
Suivre son intuition, finalement.
Ouais, exactement.
Aujourd'hui, tu abordes une nouvelle étape dans ta vie. Dans quel état d'esprit es-tu et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Jeune retraitée.
Je suis dans un état d'esprit très positif, même si aujourd'hui, on est très limité à ce qu'on peut faire par Zoom et chez soi, surtout en Angleterre, où on est particulièrement, nos libertés sont très restreintes en ce moment. Mais je suis dans une phase d'abord me ressourcer un peu, me poser, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup donné. Ça va passer par faire du sport, par avoir plus de temps pour mes passions. Et puis, je suis très excitée parce que je commence à travailler pour une charité qui, justement, fait de l'entraide aux femmes entrepreneurs, mais dans les pays en voie de développement. Donc, principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, vraiment soutenir des femmes micro-entrepreneurs qui commencent dans des conditions très difficiles, de grande précarité et où leur business, c'est vraiment la survie de leur famille. C'est vraiment elles qui amènent l'argent pour nourrir leurs enfants. Donc, je trouve que c'est une très belle cause et c'est très intéressant parce que justement, c'est purement et simplement un système de mentor. Donc, comment ça marche ? On match ces femmes entrepreneurs avec des mentors et une fois tous les mois ou tous les 15 jours, on leur donne une heure de temps par Zoom ou WhatsApp, etc., pour qu'elles parlent et pour qu'elles puissent parler de leurs problèmes. Et là, on peut leur donner des conseils qu'ils soient pratiques ou psychologiques ou tout simplement des encouragements parce que c'est souvent ce dont on a le plus besoin en tant que femme, c'est d'être soutenue moralement. Et surtout dans les pays sous-développés où le machisme est très fort, c'est d'autant plus difficile. Nous, femmes de pays privilégiés heureusement, il y a une grande avancée des femmes dans le business. On ressent tout de même toujours cette difficulté et une certaine forme de machisme. Alors, dans les pays où c'est beaucoup plus difficile, donc voilà, je trouve que c'est une belle cause et où je peux utiliser mes connaissances et faire quelque chose d'utile.
Donc, transmettre, et c'est au sein de la fondation de Cheri Blair, qui était, oui. la femme du premier ministre, Tony Blair. Donc, transmission, tu parlais tout à l'heure de femmes qui t'ont inspirée. Tu parlais de la fondatrice du Body Shop, de la fondatrice de Sweetie Betty. Est-ce qu'il y a une femme que tu places un peu au-dessus, une femme qui est vraiment ton inspiration suprême ?
Eh bien, ce qui est incroyable, et ce n'est pas par hasard, c'est une femme que j'ai rencontrée à une conférence de business au féminin. Et c'est Arianna Huffington que tu avais fait venir à Londres. Et j'étais déjà, je la suivais. Et cette rencontre d'avoir vu cette femme et qui avait eu un succès incroyable, planétaire, et en même temps qui aujourd'hui prône l'équilibre, de trouver l'équilibre entre le travail, le temps libre, le sommeil et d'avoir une vie équilibrée en tant qu'entrepreneuse. Donc, c'est des sujets que je trouve très intéressants. J'aime beaucoup, je vous conseille de la suivre sur Instagram. Elle a toujours des posts vraiment inspirants, riches. Elle se réfère à énormément aussi de femmes qui l'inspirent. Donc, pour moi, c'était une rencontre importante grâce à toi. Et depuis, elle continue de me nourrir.
Ben, merci Cécile, c'est vrai que c'était un très grand moment. Elle avait passé plus de 2 heures avec nous et avec toutes ces femmes. C'était absolument extraordinaire comme moment. Un livre de chevet, est-ce que tu as un livre de chevet qui te ressource ? Tu parlais du besoin de se ressourcer maintenant.
Ouais. Alors, en ce moment, j'ai lu pendant Noël un livre que j'ai amené là, qui est la biographie de Gabrielle Chanel. Donc, une femme d'exception. Et en fait, de lire, donc évidemment, on connaît le mythe de Coco Chanel, etc., mais de lire l'histoire de cette femme qui est vraiment partie, mais des bas-fonds de la pauvreté, de la société, de l'exclusion sociale. Et là où elle est arrivée, c'est incroyable. Donc, je le recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas particulièrement versé dans la mode, son histoire est poignante et très, très inspirante.
Alors, juste, donne-nous l'auteur, parce que c'est un...
Alors, celle-là, c'est fait par Henri Gidel, donc ça s'appelle Coco Chanel.
On note, on retient. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été parmi nous dans Power Girl.
Merci à toi.
À très bientôt. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Merci, Cécile.
Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au Féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.